8h12, le 7 minutes pour comprendre donc ce matin comment deux policiers du commissariat du 13e arrondissement de Paris ont pu être blessés grièvement par balle par l'homme qu'ils venaient tout juste d'interpeller.
Cette affaire, elle suscite beaucoup d'émotions, de chocs aussi dans les rangs de la police, bien évidemment. Elle suscite aussi beaucoup de questions. On va en parler avec vous, Axel Ronde. Vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police Nationale. On évoquera aussi les questions de sécurité autour de l'arme. Yves Goletti, vous êtes président de la Chambre nationale des syndicats des armuriers. Mais avant, Mathias Tesson, d'abord les faits. Que sait-on à cette heure des circonstances de cette fusillade ?
Tout ça se passe en deux étapes. Vous avez d'abord un homme qui est interpellé dans le 13e arrondissement, dans un appartement, parce qu'il est soupçonné d'avoir commis des violences à l'aide d'un cutter sur une femme. Cet homme est ramené au commissariat du 13e arrondissement. Il est interpellé, placé en garde à vue, sauf qu'au moment de franchir les portes du commissariat, il est fouillé, cet homme, et c'est à ce moment-là qu'il va réussir à s'emparer de l'arme d'un des fonctionnaires de police présents. Et c'est là qu'il va faire feu, au moins à deux reprise, manifestement. Il va toucher gravement deux policiers, dont l'un a son pronostic vital engagé toujours à 7 heures. L'autre est blessé gravement également, mais ses jours ne sont manifestement pas en danger. Le suspect a lui aussi été blessé, transporté à l'hôpital, hospitalisé. Aujourd'hui, 3 enquêtes sont ouvertes sur les violences que cet homme est suspecté d'avoir commises dans cette habitation, sur les violences qu'il a faites sur ces deux policiers. Une dernière enquête est ouverte, confiée à l'IGPN, sur les conditions de la riposte policière, puisque cet homme a lui aussi reçu une balle.
Axel Ronde, est-ce que vous avez des nouvelles ce matin de ces deux policiers ?
Écoutez, non, pour l'instant, aucune nouvelle, hein, tout en sachant que donc il y a toujours une urgence absolue et une urgence relative pour un des deux collègues, hein, et nous sommes bien évidemment, nous pensons bien évidemment à eux, hein, et à leur famille, hein. Encore une fois, la police nationale a été durement touchée au sein même de nos commissariats. Plus aucun endroit n'est sécurisé pour nous et c'est très très compliqué et vraiment on est très très choqués par rapport à ce qui s'est passé.
Est-ce que vous savez si le suspect s'est emparé de l'arme au moment de la fouille ?
Écoutez, là, l'enquête le déterminera. Il y a deux scénarios. Hein. C'était en tout cas dans l'intérieur du commissariat du 13e arrondissement. Soit c'était pendant la fouille de sécurité ou soit c'était par rapport à un dépistage d'alcoolémie, hein, avant présentation de l'officier de police judiciaire pour savoir si l'individu pouvait être placé en cellule de garde à vue ou en cellule de dégrisement avec une garde à vue différée. Hein. Ce n'est pas le même process, hein, parce qu'on ne peut pas mettre une personne en garde à vue si il est sous l'emprise de la boisson. Donc là, le scénario, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Ce sera communiqué prochainement, soit par le parquet de Paris, soit par la préfecture de police. Mais actuellement, tout ce qu'on peut savoir, c'est que nos collègues sont gravement touchés.
Mmh. Axel Ronde, est-ce que dans un cas comme dans l'autre, il y a une salle dédiée pour ça ?
Oui, bien sûr, il y a un local de fouille et un local où il y a l'appareil d'éthylomètre pour pouvoir relever, savoir si l'individu avait consommé de l'alcool ou pas. Donc, ce sont deux locaux, hein, mais bon, c'est assez exigu, hein, ce ne sont pas des grands locaux, tout dépend bien évidemment de la taille des commissariats. Il faudra aussi voir si ces locaux sont bien compatibles avec des individus extrêmement virulents, puisque maintenant nous avons affaire à des individus qui ne veulent finalement que s'échapper, qui ne nous écoutent absolument plus, même une fois qu'ils sont interpellés, ils cherchent à tout prix à nous mettre des coups, à prendre maintenant nos armes et à les utiliser contre nous.
Mathias. Axel Ronde, bonjour. Comment un homme peut-il se défaire de l'emprise comme ça de policiers qui le tiennent très probablement et réussir à mettre la main comme ça sur une arme ? Est-ce que la consommation de substances et d'alcool peut expliquer une telle force, j'allais dire ?
Oui, on voit que certains individus, avec certains produits stupéfiants comme le crack, ont une puissance énorme, inouïe, peuvent effectivement nous attraper, nous faire, enfin, utiliser la force violemment contre nous parce que ils ont les produits stupéfiants déculpent. Même encore là, on parle au conditionnel sur cette affaire, hein, c'est sur d'autres affaires où on voit où on a vraiment des difficultés à cela. Après, il va falloir savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a une bagarre qui a éclaté ? puisque pendant la bagarre, il a réussi à se saisir oui. De l'arme d'un de nos collègues. Encore une fois, les investigations ne font que commencer et nous aurons rapidement les conclusions du déroulé de cette affaire.
Question précise, Axel Ronde. Est-ce que vous savez si l'arme saisie par cet homme se trouvait dans son fourreau ?
Écoutez, oui, parce que il ne peut être que là. Il n'y a aucune arme qui traîne dans les commissariats, ça c'est impossible. Donc, il était forcément dans son étui, rangé dans son étui, prêt à être utilisé, hein, puisque les armes que nous avons sont prêtes immédiatement à être utilisées, puisque vous savez très bien que les conditions de la légitime défense, c'est l'instantanéité, et donc on n'a pas le temps, si vous voulez, de chambrer une cartouche ou d'enlever
une cartouche. Ça veut dire quoi, chambrer une cartouche, Axel Ronde ? Il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire, chambrer une cartouche.
En fait, c'est la cartouche qui monte dans le canon et qui est prête à faire feu quand on appuie sur la queue de détente et elle est prête à être utilisée. Elle n'est pas, si vous voulez, si on enclenche un chargeur sans forcément chambrer la cartouche, si on appuie sur la queue de détente, il n'y aura pas de départ de coup de feu. Là, on les chambre exprès pour pouvoir les utiliser instantanément puisque la législation nous demande réellement de quand nous sommes dans un cas de situation légitime défense, d'utiliser tout de suite notre arme. Sinon, après, ça peut être considéré comme plus un état de légitime défense.
Axel Ronde, dites-moi si je me trompe. Il y a une sécurité sur le fourreau. Une fois que cette sécurité est levée, l'arme est prête à tirer. C'est ce que vous voulez dire ?
Alors, on peut sortir l'arme, aller dans cet étui fourreau avec un bouton pressoir et qui déclenche, si vous voulez, la sortie. On peut sortir l'arme. Il va falloir voir si effectivement ces étuis sont bien sécurisés. Hein. C'est ce qu'on nous avait dit quand on a eu cette arme à l'époque. On nous avait dit qu'il y aurait aucun problème par rapport au fait qu'on puisse nous prendre notre arme. Il faudra voir si ces étuis ne sont pas trop usés, parce que cette arme a déjà une vingtaine d'années, donc et forcément voir si ces étuis ne sont pas défectués aussi, mais encore une fois, l'enquête le déterminera, tout cela sera pris en compte pour savoir exactement s'il y a une défaillance de cet étui pour les policiers.
Cette arme, c'est bien le Sig Sauer SP 2022 oui. Calibre 9 mm ?
Tout à fait, oui, bien sûr, c'est cette arme hein, qui a été mise en service il y a à peu près une vingtaine d'années et qui devrait normalement aussi être changée prochainement puisque normalement le cahier des charges allait jusqu'en 2022. Maintenant, comme vous savez, avec la restriction budgétaire, c'est compliqué.
Alors Yves Goletti, justement, parlez-nous un peu de cette arme, ce Sig Sauer SP 2022 calibre 9 mm, qui est réputée pour ses, dites-moi si je me trompe, pour ses nombreux dispositifs de sécurité.
Oui, tout d'abord, mes pensées vont aller vers les deux policiers et leurs familles, car nous sommes très proches des policiers. Pour le Sig 2022, il a été donc adopté comme arme de fonction par la police, les douanes et la gendarmerie en 2003. Il a un chien extérieur et un levier de désarmement pour pouvoir désarmer le chien après usage. Il n'y a pas de sécurité directe. Si vous appuyez sur la queue de détente, le coup part directement, comme sur toutes les armes modernes et sur toutes les armes qui équipent pratiquement toutes les polices actuelles.
Axel Ronde,
la sécurité, elle est surtout mise sur l'étui.
Alors justement, Axel Ronde évoquait une possibilité, il faut être évidemment extrêmement prudent, une possibilité peut-être que ce fourreau soit, ou cet étui soit usé, et donc rendre la possibilité pour un suspect d'aller chercher l'arme plus facilement que sur un étui neuf.
Tout est possible, tout matériel peut être défectueux. Normalement, les étuis modernes ont une ou deux rétentions. Si c'est l'étui administratif, je pense qu'il a au moins deux rétentions. Est-ce que la personne connaissait le fonctionnement de l'étui ? Est-ce qu'il connaissait ça ? Sinon, normalement, ces étuis empêchent que l'on puisse prendre par inadvertance ou contre la volonté du policier l'arme dans l'étui.
Ça, c'est intéressant aussi, Axel Ronde. Ça veut dire que ce suspect là qui est allé dégainer peut-être l'arme, peut-être s'y connaissait ?
Non, parce parce que c'est une technique pour la sortie. Normalement, cette sortie d'arme, une fois que vous avez poussé le bouton ou poussoir, ça dégage l'arme. Et normalement, il y a un angle où on peut, vers nous, vers notre corps, où on peut la dégainer. Mais en sens inverse, normalement, il y a une plus grande difficulté à tirer cette arme. Tout dépend de savoir comment le collègue a été attaqué, hein, si c'était de face ou si c'était dans le dos, parce que effectivement, il y a des, on est obligé de faire des procédures de relevé par rapport à cette affaire.
Merci infiniment à tous les trois. Évidemment, nous avons une pensée pour ces deux policiers, particulièrement éprouvés, évidemment, dans le corps des policiers, et particulièrement sollicités en cette période de pré-Jeux Olympiques. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous, tous les deux. Merci à Mathias Tesson.